La semaine dernière, nous étions donc à Damary-les-Lys donc pour la journée annuelle donc de Portes Ouvertes. Et cette semaine, donc ce dimanche, c'est donc la journée de l'Église persécutée. Donc les églises s'associent plus ou moins, je vais dire. Et donc on a choisi donc cette année. Donc je vais vous faire un petit reportage de. Je ne peux pas tout vous dire, c'était tellement dense et tellement riche que je ne peux pas tout vous dire. Mais en tout cas, vous apportez, je l'espère, des éléments encourageants pour chacun d'entre vous et pour aussi vous montrer que l'Église du Seigneur, c'est la même sur toute la surface de la terre. Je me souvenais donc, la première Église, donc le Seigneur a dit, donc, allez par toute la terre, annoncez la bonne nouvelle, faites des disciples. Et donc certains sont partis, mais c'était une minorité. Ceux qui restaient étaient là pour prier, pour soutenir ceux qui étaient envoyés. Et d'une église dans l'autre, et à tour de rôle, c'était ça. Et c'est toujours ça. Alléluia. Donc, le soutien donc aux chrétiens persécutés. Mais en fait, je me suis dit, mais qui soutient qui? Je le savais déjà un petit peu. Mais ce qui se passe dans des pays qui sont loin de chez nous, dans des circonstances qui sont bien au-delà de de nos petits problèmes, quelquefois, la plupart du temps, ça enrichit, ça fortifie ma foi. Et donc, le sous-titre, alors, c'est un petit peu flou. Souvenez-vous de ces premiers jours, donc, qui est dans Hébreux. Donc Hébreux 10, souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. C'était assez rapide pour eux, hein. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens. Sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. La première Église, comme dans beaucoup de pays persécutés, l'expérience de la persécution, c'est assez rapide. Donc voilà, je vais continuer. Cette Église me fait penser donc à vraiment au corps, à l'image du corps qui. Moi, ne me quitte pas. Et si un corps n'est pas un corps humain n'est pas irrigué de façon permanente et complète, jusque dans les extrémités de nos organes, et pour tous nos organes, et bien forcément, l'organe qui n'est pas irrigué va être malade et va jusqu'à dépérir. Pour l'Église, il en est de même. Le Seigneur a utilisé cette image du corps. Elle est vraiment excellente. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Très rapidement, des disciples sont partis, et ils continuent, et je vais vous exposer des choses qui pourront vous surprendre, mais qui sont pour sans doute les temps à venir. L'autre image que j'avais, si tu peux la passer, Serge. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Vous vous reconnaissez? Comment? Oui, c'est l'Europe. Et donc, c'est une image qui. Ce sont des images qui ont été prises par la NASA. Et donc on voit la surface de la Terre éclairée. Et pour moi, l'Église est comme une maison. Et une maison bien éclairée, c'est toutes les pièces de la maison qui sont éclairées. Et partout le monde, c'est que le monde soit éclairé partout. Donc vous comprenez qu'ici à Rennes, on est forcément concerné par ce qui se passe à 10 000 kilomètres. Et donc, bien sûr, ça nous montre la densité de la population, bien sûr, qui est dans certaines régions. Vous voyez que la Bretagne, il y a encore de la place. Mais il y a d'autres endroits qui sont très, très éclairés. Ou alors, ils n'ont pas pensé à éteindre la lumière. Mais pour trouver cette image, j'étais donc sur un site d'un journal. Et donc, il commentait ces images, quoi. Et qui disait que on voyait à travers donc ces lumières les reliefs, hein, les limites géographiques assez nettement, peut-être moins pour l'Europe, mais pour des pays d'Asie notamment, et qu'on voyait aussi des limites politiques. Donc j'ai pas pu vous la mettre, mais la limite entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, elle est vraiment nette. Corée du Nord, c'est noir. Et donc, bien sûr, la Corée du Nord, c'est le pays, donc l'échelle que Portes Ouvertes donne une fois par an, donc où il y a le plus de persécutions. La Corée du Nord est donc le pays dans lequel il y a le plus de persécutions. Et cela, malheureusement, depuis plusieurs années. Donc, 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc bien sûr, la première église jusqu'à maintenant a été persécutée. Et je vous parlerai tout à l'heure qu'en France, il y a 500 ans, il y a eu une grande persécution. On a tendance à oublier ça, mais il y a 500 ans, ceux qui partaient de notre pays. Donc, on estimait qu'il y avait 10% de protestants, de convertis à l'époque, fuyaient le pays. Et donc, ces flux migratoires qu'on voit aujourd'hui, là, on n'est pas concerné, on reçoit, ou j'espère on accueille. Mais à cette époque-là, c'est de France que ça partait, vers d'autres pays d'Europe. Et donner sa vie pour la cause de Christ, ça, vraiment dans tout ce relief, toute cette dimension, quand on entend les différents témoins venant de différents pays, donner sa vie pour la cause de Christ. C'est vraiment là l'image qu'on a du grain de blé dans Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et à travers ce qu'on a entendu, vous verrez qu'il y a vraiment des encouragements extraordinaires à travers des hommes et des femmes qui ne lâchent rien. Et en France, on sait qu'il y a eu de ces hommes-là qui n'ont rien lâché pour que la semence, eux-mêmes, la semence tombée en terre, elle meurt, elle a produit du fruit et a pu permettre qu'en Occident, et bien ailleurs, la bonne nouvelle soit répandue. Et donc, nous prions pour eux, donc pour l'Église persécutée, pour que leur foi ne vienne pas à défaillir sous les coups de la persécution. Et ils prient pour nous. Eux, ils prient pour nous. Ils prient pour nous que notre foi non plus ne défaille pas. Et peut-être dans le confort matériel qui peut nous endormir. Nous prions pour eux, ils prient pour nous. Voilà, témoignez notre soutien. Ce qu'on a entendu aussi, hein, c'est, je crois que je l'ai mis là, tous les contacts qui peuvent être amenés donc, enfin, d'ici, enfin, ou des pays européens qui vont quelquefois par une visite, mais quelquefois par un courrier, écrire, contacter, aller en voyage, soutenir. Et donc souvent le témoignage qui revient de là-bas, votre soutien nous donne la preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez là lorsqu'il y a eu le direct avec l'église d'Alep en Syrie. combien c'était c'était visible même sur le visage du pasteur, je me souviens plus son nom, je crois que c'était Haroub, qu'il attendait cette connexion avec nous en France et ce soutien. Là, il voyait donc une église associée, aussi un pays associé pour prier pour eux. Donc Matthieu 25, 36, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Toutes ces choses-là sont bien sûr dans l'évangile. Elles sont pour ceux qui sont juste à côté de nous et pour ceux qui sont aussi beaucoup plus loin. Et pour moi, une église, elle n'est pas juste sur son périmètre. Elle va jusqu'au bout de la terre. Son cœur n'a pas de limite. Son cœur va jusqu'au bout de la terre. Hébreux 13, 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. Et à ce moment, en ce moment, donc dimanche, c'est le jour où on se réunit, les chrétiens se réunissent. Pensez à des frères et sœurs qui sont dans des pays sous la persécution, et peut-être ils sont juste une petite cellule. Il y a quelqu'un qui est à la porte, qui écoute, parce qu'ils ne veulent pas être surpris. D'autres, ils sont peut-être sous les coups. Et ça, c'est la réalité. Je ne veux pas mousser les émotions à travers ça, mais c'est la réalité. À travers le monde, on sait qu'en ce moment même, il y a des chrétiens qui... paye le prix pour se réunir. Et il y a tous les témoignages aussi, enfin, on rencontre forcément beaucoup de gens, il y avait 1200 personnes, et puis quelquefois des personnes qu'on n'a pas vues depuis. Là, il y a un frère que j'ai retrouvé, ça faisait 12 ans que je ne l'avais pas vu, et qui est dans la région d'Angers maintenant. Et il nous parlait d'un témoignage, donc une femme, je ne sais plus si c'était en Corée, qui a donc une chrétienne, donc qui a été donc mise dans un camp, et puis au fur et à mesure donc maltraitée, épuisée, s'est retrouvée donc jusqu'à être nue dans le froid, et parce que les geôliers de ce camp voulaient qu'elle meure tout simplement, quoi. Et elle a passé la nuit comme ça, et au matin, la grande surprise pour les gardiens, c'est que cette femme n'était pas morte, mais elle était à genoux à prier, et tout autour d'elle, il y avait de la glace, mais tout autour d'elle, ce n'était pas gelé. Et j'avais eu, il y a quelques années, je pense que c'était par Portes Ouvertes aussi, le même témoignage. Donc là, c'était au moment donc, de l'URSS, donc un prisonnier dans le goulag, et c'était pareil. Il devait mourir de froid dans sa cellule, dans l'endroit où on l'avait mis, dans son baraquement. Et de la même façon, le matin, il n'était pas mort, mais il était bien vivant. Et dans les deux cas, ces personnes-là ont dit, le Seigneur m'a parlé, mais c'était un songe, ce sont les prières de tes frères, de tes sœurs dans le monde, qui ont fait que mon bras t'a soutenu et qui t'a secouru. Donc vos prières, là où vous êtes, on l'aurait fait. Donc bien sûr, ça fortifie notre foi, tous ces témoignages. Et donc il y a eu plusieurs intervenants donc, qui parlaient de leur pays, donc je ne peux pas tout vous dire. Alors en plus, pas de possibilité de prendre de photos, parce que bon, ce sont des gens qui pourraient être reconnus, d'enregistrer. Donc bon, j'ai pris des notes, mais je ne peux pas tout vous dire. Donc c'est pour vous dire que l'année prochaine, venez-y. Alors, on était un groupe assez important, finalement, de l'Église. Je crois qu'on était jusqu'à, on va dire, 8 et demi, parce qu'il y avait notamment Sauveur qui vient une fois donc en Bretagne, mais quand c'est l'été, quand il fait beau, et puis autrement, il est du côté de Marseille, quoi. Donc, alors la Malaisie, donc un coin de l'Asie, donc où il y a aussi beaucoup de musulmans. Et donc il nous disait, donc cet orateur, un pays donc où l'Église grandit plus vite parce qu'elle prie beaucoup plus. Et donc ils avaient dit, bon, les chrétiens, ils prient 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Bon, je me suis dit, c'était caricatural. Et il disait, les musulmans ont prié 5 fois par jour. Et donc, si on prie plus, si on prie 5 fois par jour, l'Église va grandir et le royaume de Dieu va s'étendre. Donc, voilà l'exemple caricatural, pardon, qu'il a donné. Mais c'est une Église qui prie beaucoup. Et donc, c'est une Église qui se développe. La Corne de l'Afrique. Donc, ce ne sont que des pays persécutés. Hein. Vous irez voir sur la carte tout à l'heure, là, donc qui est sur le tableau quand on sort à gauche. Ce sont des pays où il y a la persécution. C'est les 50 pays les plus ou régions les plus persécutées dans le monde. Donc, la Corne de l'Afrique. Donc, là, il y a Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie. Il y en a un quatrième. Peut-être bien l'Érythrée, oui. Mais vous suivez ce matin? C'est bien, ça. C'est aussi une autre possibilité de connaître la géographie. Donc, dans la Corne de l'Afrique, à chaque fois qu'on rencontre ces chrétiens persécutés, on pourrait croire qu'ils sont abattus. Et donc, il y a donc l'exemple là de Samri qui dit « Personne ne peut éteindre ce feu en nous. » Personne ne peut éteindre ce feu en nous. Alléluia. Et ça a été redit plusieurs fois, à travers des destructions de maisons, d'églises, où il était dit, notre maison, notre église a été détruite, mais ce qu'il y a en nous, ils n'ont pas pu le prendre. Alléluia. La Turquie, en 1970, il n'y avait aucune église évangélique donc en Turquie. Aujourd'hui, il y a 100 de communautés. Et dans la ville, la région de Malatya, donc il y a 3 hommes qui ont été tués sous la torture, 3 hommes qui étaient donc des serviteurs de Dieu, et qui avaient dans le cœur d'implanter une église à Malatya. Ils ne l'ont pas vu, ils sont morts sous la torture, mais l'église, elle existe bien aujourd'hui. L'église, elle est là. Ils ont semé, et l'église a germé. Alors, une affiche qui est une publicité donc de Turkish Airlines. Ils en ont plusieurs comme ça. Et donc, Turkish Airlines parle de la Turquie comme la maison de la chrétienté. Donc, c'est pas une note humoristique, hein, c'est parce que plusieurs églises de l'Apocalypse sont déjà en Turquie. Et donc vous pouvez aller visiter, il y a des ruines. Et donc il y a plusieurs traces qui montrent qu'il y a une église importante en Turquie. Et donc ils invitent, ils veulent bien des chrétiens qui viennent de l'extérieur, mais ils n'en veulent pas à l'intérieur. Et donc ce que je me disais, les publicités sont aussi souvent prophétiques. Ça, c'est un autre débat, mais on a vu des publicités qui annonçaient des choses, on se dit, c'est bizarre, et puis en fait, 10 ans après, on voit que ça arrive bien. Et donc, l'église de Turquie, qui a besoin de soutien aussi, et nous, en tant qu'Européens, on peut y aller encore assez facilement. Alors, je ne me trompe pas, parce que j'ai... En Irak, Daesh a pris tout ce que nous avions. Voilà, c'est ce que je vous disais. Mais ils n'ont pas pris notre foi. Comme si la foi était seulement dans le bâtiment de l'église. maintenant détruite. Et donc, si Daesh, donc ça c'était un autre témoignage, difficile parfois à entendre, si Daesh n'était pas venu, j'aurais toujours ma maison, mais je ne connaîtrais pas Christ. Donc on sait que à travers les difficultés, certains ont trouvé refuge, peut-être à travers des chrétiens. Mais dans cette difficulté-là, on est de ceux-là aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'étais de ceux-là. Il a fallu une difficulté pour que je plie le genou à terre et que je rencontre le Seigneur. Là, ce sont des épreuves beaucoup plus graves. En Syrie, donc, un pasteur d'Alep, alors je ne sais pas si c'est le même, donc ce pasteur dit aux chrétiens de ne pas venir à l'église le dimanche. Voir Robert, là, on a encore... Et alors, pourquoi il dit ça de ne pas venir donc, à l'église le dimanche? Il dit à ses paroissiens de ne pas venir, tout simplement pour ne pas prendre la place d'un musulman qui pourrait venir écouter l'évangile. Ben, c'est ce qui se passe. Vous vous rappelez des témoignages qui avaient été donnés lorsqu'il y avait eu le direct avec Alep? C'était ça. L'église grandit. Et donc, bien sûr, les chrétiens se réunissent. Mais pour le dimanche, eh ben, ils sont invités, bon, sur certaines réunions, à laisser la place pour que des non-chrétiens, là en l'occurrence des musulmans, puissent venir. Écoutez la bonne nouvelle de l'évangile. Maintenant, je vais vous faire rapidement aussi un parallèle qui a été fait entre l'église du temps de la Réforme, parce que c'était aussi, bien sûr, un des titres de ce rassemblement, les 500 ans de la Réforme. Et donc la Réforme a bénéficié pleinement de l'invention de l'imprimerie. Vous savez que le premier livre imprimé a été la Bible. Et vous savez aussi qu'il y avait des craintes par rapport à cette invention extraordinaire, alors que ça a été un outil puissant pour répandre la bonne nouvelle. Mais aussi les enseignements de Luther. Alors, j'ai plus le chiffre, je ne sais plus combien d'enseignements de Luther ont été divulgués à travers donc l'imprimerie, alors qu'autrement, ça n'aurait pas été aussi facile, aussi efficace. Et donc, l'Église cachée d'aujourd'hui, elle peut recevoir l'Évangile. Alors, depuis les années 60, donc, ça a été par la radio. La radio ne s'arrête pas là au niveau des frontières, comme la télévision dans les années 80. Et puis maintenant, c'est Internet. Donc quelquefois, on voit des menaces dans les progrès technologiques. Et bien sûr, on a dans des outils comme ça, des choses qui sont horribles, qui passent. Mais aussi, si on sait, nous chrétiens, s'en servir, on peut l'utiliser pour être un vecteur extraordinaire de l'Évangile. Donc vous voyez ces deux parallèles entre l'imprimerie et puis maintenant les médias qu'on a à notre disposition. Pardon. Frère André, donc, fondateur de Portes Ouvertes, fut appelé donc, le contrebandier de Dieu. Mais en 1530, il y a eu les premiers contrebandiers de la Bible. Donc d'abord en latin, parce que c'est en latin d'abord qu'elle a été écrite. Et donc et la version... de l'Église catholique, et puis après il y a eu en français. Mais il gardait la même couverture que cette même première Bible, pour faire croire que c'était toujours en latin, mais seulement elle était en français, à la disposition de chacun, enfin à la compréhension de tous, quoi. Et donc en Chine, il y a quelques années, alors donc c'était du temps de Mao Tse-tung, Les Bibles, elles avaient la dimension du petit livre rouge, la couverture rouge, même dimension, et donc c'était une dissimulation. Et donc forcément, on s'est servi de ce genre de choses pour que la parole de Dieu continue d'être disséminée à travers tout le pays. Et la Chine est aujourd'hui sans doute le pays où il y a le plus grand nombre de chrétiens. On ne sait pas combien il y en a. On pense qu'il y en a plus de 100 millions, bientôt 300 millions, 600 millions. C'est la première église persécutée, et je peux vous dire qu'elle est tout près de chez nous. En 1982, donc 1 million de Bibles ont été débarqués donc clandestinement sur les rivages de la Chine. C'était l'opération Perle. Et donc là, c'était une organisation. Et puis donc là, ce bateau-là s'est échoué. Et puis, bon, vous lirez si vous voulez dans... Je pense qu'on peut retrouver ça dans je ne sais plus quel livre. enfin, dans... Oui, je pense dans le contrebandier, oui, donc qui retrace cet épisode-là. Et il y a eu aussi, donc il y a 500 ans, une péniche qui a été remplie de Bibles venant de Genève et donc qui a échoué sur la Seine. Et c'était une Bible donc, à destination des Parisiens. C'était toujours le même objectif, quoi. Donc il y a eu tout ce parallèle qui a été fait entre ces deux périodes, celle d'il y a 500 ans et celle d'aujourd'hui. Mais il y a eu aussi donc 8 guerres de religion dans notre pays, dont le massacre de la Saint-Barthélemy, donc, qui a fait donc 30 000 morts. Et la violence de ces conflits, qui a duré plus de 100 ans, a entraîné donc une forte immigration. Et donc les chrétiens sont partis d'abord sur les différents pays voisins de l'Europe où il y avait des protestants. Mais ça a été sur toute la terre. Mais ces chrétiens-là étaient souvent des artisans, c'était des gens qui avaient un savoir-faire. Ils laissaient bien sûr leur outil de production, leur richesse peut-être, mais ils partaient avec un savoir-faire. Et tous les pays autour en ont bénéficié. Et alors je ne sais plus si c'est aux États-Unis, c'est 4 ou 5 présidents donc, qui ont été présidents donc, des États-Unis qui sont d'origine huguenote, dont Franklin Roosevelt. Donc, ces chrétiens, ils ont été comme une semence venant de notre pays. Et c'était une bénédiction pour ceux qui les ont accueillis. Théodore de Bèze, donc, qui était à l'époque de Calvin, théologien donc, et collaborateur de Calvin, disait quelque chose, le sang des martyrs est du fumier à la vigne du Seigneur pour la faire fructifier. Alors si le mot fumier vous gêne un petit peu, vous pourriez dire engrais. Le sang des martyrs est de l'engrais, donc pour engraisser la vigne du Seigneur, pour la faire fructifier. Et l'Église, ça a toujours été ça. Nous avons deux interventions remarquables aussi d'un quelqu'un qui travaille pour Portes Ouvertes, qui a servi le Seigneur pendant 25 ans donc pour Portes Ouvertes donc en Asie, qui était pasteur à Bristol aussi, si je me souviens bien, et qui est diplômé de géopolitique. Et qui s'est penché sur toutes ces mouvements de persécution et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui peut se passer demain. Et je vous disais, la plus grande église persécutée du monde arrive près de chez nous parce que les Chinois veulent évangéliser le monde. Et l'évangélisation donc à l'extérieur des bâtiments en Chine est interdite. Mais ça n'empêche pas l'Église chinoise de grandir et de grandir. Et l'Église chinoise donc, a à cœur de s'occuper des anciens. Il y a 40% de Chinois qui ont plus de 60 ans. Et le gouvernement ne sait pas quoi en faire, ne sait pas comment gérer ce problème. L'Église est venue dire, nous voulons bien nous en occuper. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Politiquement, on va dire, ça n'est pas mûr, spirituellement sans doute non plus. Mais un jour, je pense que l'Église chinoise va s'occuper des personnes âgées en Chine. Et on ne sait pas ce que ça va faire. Mais ce que nous croyons, c'est que le Seigneur a toujours un plan à travers ça. Et que cette église-là, la Chine a été, jusqu'à il y a 500 ans, une puissance dans le monde. Elle est redevenue une puissance économique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de passages de personnes qui s'occupaient de la mission Empare, donc qui travaillent pour l'Inde, et qui nous parlaient de l'Inde comme un pays en expansion aussi économique, et qui nous disaient que le Seigneur ne permet pas non plus qu'une région devienne économiquement forte sans lui avoir un plan. Et l'Église en Inde aussi se développe, aussi dans la persécution radicale. Et nous croyons qu'à travers ces choses-là, le Seigneur a un plan. Et il nous a amené sur quelque chose qui peut vous surprendre, qui était un... j'ai retrouvé ça en Allemagne, mais je pense que ça a eu lieu dans d'autres pays. Ça s'appelle le rire de Pâques. Et le jour de Pâques, Satan découvre. Il découvre quoi le jour de Pâques, Satan? Il découvre qu'il est vaincu. Il découvre que là où il pensait avoir maîtrisé les choses, conduit les choses, et bien c'est la victoire de Jésus. Notre Rédempteur est vivant. Et le plan de Dieu s'est accompli. Dieu a toujours le dernier mot. Il se rit de la sagesse des hommes et de la sagesse des rois. Juste avant le massacre donc en Chine de la place Tiananmen, en 1989, et où il y a eu donc 286 morts et plusieurs milliers de blessés, Ron McMullen était donc à l'époque en Chine. Il va voir un frère chez lui, donc un frère qui s'occupait d'une église, sans le prévenir. Il va voir ce frère, il rentre, aux surprises, il voit deux dignitaires du régime chinois qui étaient là. Donc je pense qu'il y a une surprise il s'est dit « qu'est-ce que je viens faire là ?» Et c'était au moment de ce massacre-là. Et en fait, ils étaient en train de porter un toast à ce qui venait de se passer à Mao, le meilleur pré-évangéliste de Chine. Parce qu'à travers ça, ils savaient que des portes s'ouvriraient. Et ces hommes-là, qui étaient bien sûr donc des dignitaires du régime, mais qui étaient aussi chrétiens, étaient donc là, chez ce frère, pour fêter une victoire alors que ça paraît une défaite. Et donc Mao, il a passé, d'autres sont venus derrière, et nous voyons que l'Église a continué de prospérer. Au temps de Mao, il y avait à peu près 50 millions de Chinois. Aujourd'hui, il y en a plus de 100 millions. La puissance politique d'un dictateur ne peut pas arrêter le plan de Dieu. C'est ce message-là qui est important à retenir, parce que on peut voir tous les massacres, l'Église qui est à droite et à gauche sur cette planète, qui est renversée, qui souffre, des familles détruites. On voit tout ça. Pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur, ils savent que le prix est là aussi. Ça a été dit aussi, nous savons qu'il y a un prix à payer. Et eux, dans leur démarche, c'est sûr qu'ils ne renieront pas leur foi. Ils sont prêts à mourir, comme les premiers martyrs. Mais ils savent que derrière, dans le pays, il y a des semences qui sont semées. Il y a des prières qui sont là. Et le sang des martyrs fertilise cette église future. Et donc avant Mao, le peuple était religieux, sans foi en Christ. Et en fait, Mao leur a appris quelque chose. Mao disait, on va bâtir le ciel sur la terre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, moi je me rappelle des témoignages qu'il y avait il y avait ces séances d'autocritique. Alors le petit livre de Mao qui était comme une Bible, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et il y avait des séances d'autocritique quand tu n'avais pas réussi à faire ce qui était mis dans le livre rouge. Et donc c'était des séances de repentir. Ça vous dit quelque chose ? Oui, de confession. Et donc lors des meetings politiques, il y avait quelque chose aussi de qui était donc une adoration. Ils vénéraient cet homme-là. Je lis un livre sur la Corée, c'est exactement la même chose. On se dit, mais quel aveuglement ! Mais ils vénèrent un dictateur qui les écrase, quoi. Et donc, ils prenaient le petit livre rouge et ils faisaient ça. Et donc, ils étendaient le bras ou les bras vers Mao. Et les premiers chrétiens, donc chinois, quand ils se sont convertis au Seigneur, ils avaient le désir d'adorer. En Iran, même type d'exemple. Sous le régime des ayatollahs. Et la foi donc se propage, donc toujours là du bouche à oreille, et donc jusque dans les familles, d'un haut responsable qui vient demander donc à l'ayatollah donc en place, qu'avez-vous l'intention de faire par rapport à ça ? Et il dit, je vais faire cesser ça tout de suite. Et il va bâtir donc un discours. Et donc il veut qu'il passe sur toutes les chaînes, je ne sais pas combien il y en avait, au même moment. Et ça devait être le soir pour que tout le monde écoute. Donc j'imagine les Iraniens devant leur poste de télévision. Et donc voilà ce qu'il a dit. Faites attention aux églises de maison qui travaillent pour la CIA et qui veulent nuire à notre pays. Alors les gens se sont dit, les églises de maison qui veulent nuire à notre pays, et puis les agents de la CIA, enfin, etc. Ils se disent, mais ces gens-là nous veulent du bien alors. Où sont les églises de maison ? Et ça a donné un engouement donc vers les églises de maison, et ça a permis aussi à plusieurs de connaître l'Évangile. Dieu a toujours le dernier mot. Donc dans 2 Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et Hébreux 6 encore pour... je crois que j'ai fini, oui. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres ou votre œuvre, le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Donc, voilà, j'ai terminé.